c'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Aujourd'hui, nous parlons de la pollution des rivières dans, et cours d'eau dans les centres urbains. Eh bien, vous savez, toutes sortes de déchets résultant de l'activité humaine remplissent les rivières et cours d'eau dans bon nombre des centres urbains du pays. Bouteilles en plastique, entrailles des poissons et autres déchets provenant des ménages finissent leur course dans ces cours d'eau et rivières. Alors certains citoyens, n'ayant pas des fosses septiques chez eux et à la maison, s'organisent pour diriger les matières fécales vers les rivières. Alors comment lutter efficacement contre ce phénomène? On en parle aujourd'hui avec professeur Sikoulissimoi, Céline. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes spécialiste Jairetech, je sais pas, Jairetech, qu'est-ce que cela veut dire?
Merci beaucoup. GIR, ça veut dire gestion intégrée des ressources en eau, option technologie de l'eau.
Voilà, gestion intégrée des ressources en eau. Alors nous parlons de la pollution des rivières. Comment se présente la, quelle est la santé de nos rivières et cours d'eau dans les centres urbains, professeur?
Merci beaucoup pour l'invitation d'abord et surtout pour l'intérêt que vous accordez à ce que nous faisons. Je suis Céline Sikoulissimoi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je veux d'abord préciser que je suis chimiste de formation au départ de l'Université de Kinshasa et ce n'est qu'après que j'ai pu faire la gestion intégrée de ressources en eau, option technologie de l'eau, à l'Université de Liège en Belgique, où j'ai poursuivi ma thèse de doctorat en sciences dans la même université. Alors, par rapport à cela, nous avons acquis à travers cette formation les compétences, les aptitudes pour pouvoir traiter la question de gestion intégrée des ressources en eau. Les ressources en eau, nous en avons, les rivières, les fleuves, les eaux thermales, les eaux des sources, toutes ces eaux que nous avons dans notre pays, l'ensemble de toutes ces eaux, nous les appelons les ressources en eau. Les fleuves, les océans en font partie, effectivement, et même les eaux souterraines que nous ne voyons pas, mais que nous pouvons apercevoir après forage, par exemple, ou résurgence.
Alors, professeur, quel état des lieux vous faites de nos rivières, en Kinshasa en particulier?
L'état de nos rivières que nous faisons actuellement est quelque peu alarmant. Pourquoi? Vous l'avez souligné, tout ce que nous avons comme activité humaine trouve comme finalité, en termes de déchets, les rivières. La rivière devient le lieu où chacun va laisser le déchet ultime, entre guillemets. Pourtant, ces rivières, en principe, qui devaient constituer des sources de vie pour certains qui les utilisent, qui vivent à côté de ces rivières, qui en ont besoin. Pourtant, ces rivières nous servent, nous tous. D'autant plus que c'est grâce aux rivières que nous avons de l'eau au robinet. C'est grâce aux rivières que nous avons des poissons, par exemple. Il y en a qui proviennent de fleuves, mais pour que le fleuve soit ce qu'il est, il a besoin de la rivière. Et pour que la mer ou l'océan puisse être ce qu'elle est, ou la mer puisse être ce qu'elle est...
Il a besoin de la rivière.
Il a besoin de la rivière au départ, la rivière a besoin de sources, etc. Et donc, cette interconnexion entre ces écosystèmes fait que tout ce que nous faisons en termes de gestes, tout ce que nous jetons dans les rivières, ont un impact sur la vie de la rivière. Particulièrement à Kinshasa, la gestion des déchets pose problème. Et cette gestion des déchets fait que le cycle naturel de l'eau, qui consiste à diriger l'eau, comme je l'ai souligné, l'eau de pluie, l'eau de ruissellement, les eaux d'infiltration, eh bien, ils suivent un cycle, un cours normal, un processus géant qui fait que nous ayons les océans, nous ayons les mers, nous ayons le fleuve, nous ayons la pluie, etc. Mais lorsque cette eau de ruissellement rencontre une ou deux des déchets, rencontre un paquet de déchets, ces paquets sont tout simplement charriés.
Et quel, vous avez eu affaire à des études, vous avez visité quelques rivières de Kinshasa, quel type de déchets vous avez pu identifier?
Merci beaucoup. Nous avons identifié différentes catégories de déchets qui ont été charriés à partir des maisons, à partir des lieux publics, des décharges publiques. Il y a eu des matières fécales, nous avons trouvé aussi des seringues, nous avons trouvé de pampers, nous avons trouvé des bandes hygiéniques, nous avons trouvé des boîtes de conserve, nous avons trouvé des piles, nous avons trouvé des batteries, nous avons
trouvé... Un peu de tout quoi.
Nous avons trouvé des animaux morts, nous avons trouvé un mélange, un cocktail molotov suffisamment intéressant pour nous causer suffisamment d'ennui.
Voilà, donc c'est tout ça qu'on retrouve, et c'est dans presque toutes les rivières de Kinshasa.
Dans toutes les rivières, quasiment dans Kinshasa, que l'on retrouve ces différents déchets, parce que les déchets qui sont laissés ça et là sont tout simplement charriés par les eaux de ruissellement vers les rivières. C'est le chemin normal.
Il y a des bouteilles en plastique aussi.
Plein de bouteilles en plastique, il y a plein de papiers, il y a plein de cartons, il y a... différentes catégories de déchets, de bouteilles en plastique, comme vous l'avez dit, et qui surtout obstruent le bon fonctionnement de ces rivières-là, particulièrement. Mmh. Pour la simple raison que la rivière, lorsque elle ne fonctionne pas normalement, eh bien, ça devient une source de nuisance.
Alors, vous avez mené une étude là-dessus. C'était l'étude consistait à faire quoi exactement?
Merci. Nous avons commencé il y a longtemps. Ça fait 10 ans déjà que nous avons commencé à faire cette étude sur les rivières. Le monitoring. Et cette étude avait commencé par la rivière Kémi, particulièrement une toute petite rivière qui se trouve vers l'amont de l'aval plutôt du CNPP. Cette rivière-là, nous sommes passés par là, nous avons fait quelques recherches et nous avons compris qu'il y avait un souci par rapport aux qualités de cette eau, de cette eau naturelle. Et après, nous avons tiré la sonnette d'alarme plus ou moins pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et 10 ans après, c'est-à-dire il y a quelques mois, nous avons refait nos mesures pour essayer de comprendre si les...
Pour mesurer les taux de pollution?
Oui, nous, mais si ce que nous avons prévu à l'époque, c'est-à-dire nous avons fait des prédictions que si on ne faisait rien, les taux, les normes seront largement dépassées. Les normes de quoi? Les normes en quoi? En fait, une rivière, un cours d'eau, doit fonctionner dans un état naturel. Cet état naturel fait que la composition en nutriments, la composition en certains des éléments comme l'oxygène dissous, les sels minéraux naturels, doit être dans un taux suffisant normal, un taux normal. Ne doit pas dépasser une certaine quantité pour un excès ou être en déficit pour empêcher le bon fonctionnement du système ou la rivière, etc. Et donc, nous avons fait ces mesures à l'époque et aujourd'hui, nous constatons que la norme est excessivement dépassée dans certaines rivières. Et cette norme-là a fait que, aujourd'hui, nous pensons que... le monitoring que nous sommes en train de faire sur les différents cours d'eau doit continuer parce que la rivière, pour bien vivre, on doit analyser et puis juger les capacités, ses qualités, afin de décider des mesures à prendre, du traitement à suivre selon l'usage. Et l'usage, c'est quoi? C'est en fonction de la consommation. Est-ce que c'est pour la consommation industrielle? Est-ce pour la pêche? Pour les loisirs, etc. Pourquoi alors ce monitoring? Parce que c'est à partir de ces analyses-là que nous pouvons à peu près connaître quelle est la qualité de nos eaux, la qualité de nos eaux à Kinshasa particulièrement. Avec tout ce que nous voyons dedans, nous avons l'impression que c'est normal ce que nous vivons. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pour...
Le degré de pollution est très élevé.
Cela dépend de quel type de pollution. Parce qu'il y en a...
Pollution des eaux, bien entendu.
Oui, quand on parle de normes, on regarde aussi les paramètres. qui indique qu'une eau est polluée, qui indique qu'une eau est mauvaise pour la consommation et pour différents usages. Donc, nous avons fait ce monitoring et nous essayons de regarder différentes catégories. Et par exemple, pour les caractéristiques organoleptiques, les qualités organoleptiques, c'est-à-dire qui se rapportent à nos sens. Ces eaux sont grises, une eau de rivière, grise. Il y en a qui sont noires complètement et qui, finalement, avec cette coloration, empêchent le bon fonctionnement des rivières. Ces eaux sont noires. Il y a celles qui sont grises et d'autres qui sont plus ou moins turbides. Donc, à part cela, il y a ces différents aspects, point de vue composition chimique. Nous avons vu que, nous avons fait à partir de la recherche, nous avons trouvé que ces eaux contiennent aussi beaucoup de nutriments et qui peuvent à la longue créer des problèmes en termes de, par exemple, d'eutrophisation. Parce que s'il y a beaucoup de nutriments dans le milieu, ça peut entraîner un développement exagéré de la végétation aquatique. Et puis, ces eaux
développement
sont...
Développement des microbes, vous voulez dire
Microbes, on va y arriver.
On va y arriver. D'accord.
Un
instant, on va accueillir dans cette émission les auditeurs appellent pour poser des questions par rapport au sujet. Nous avons des gens en ligne, Jonas, qui nous appellent des Kananga, et Jérémy de Lubumbashi. Nous parlons de la pollution des rivières dans les centres urbains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cela? Jonas Kabinda, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à l'immense forêt des auditeurs de la Radio de la Paix.
Quelle est votre préoccupation, Jonas?
Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Merci également pour la thématique du jour. Moi, je veux descendre directement dans les villages. Il y a des villages, nous l'avions dit la fois passée, les villages où les mamans pratiquent la chasse dans des rivières en utilisant des produits toxiques. Elles vont par exemple écorcher des écorces de certains arbres et puis elles obtiennent une poudre toxique, elles vont jeter sur l'eau. Par exemple, ce sont les mamans d'un village en amont d'une rivière. Alors en aval encore, il y a un autre village. Et ils vont attraper des poissons qui ont inhalé ce produit toxique-là. Alors que cette source-là sert pratiquement de breuvage à un village voisin. Alors, je vais demander à l'invité, dès qu'il y a une pareille pollution, le village qui s'abreuve de cette eau-là peut attendre pendant combien de temps pour boire de cette eau qui est déjà polluée par des produits toxiques? Deuxième préoccupation, il y a, on dit par exemple que l'eau qui coule n'a pas de microbes. Peut-être vous allez par exemple trouver des mamans qui pratiquent la chasse. Toujours la chasse, plutôt la pêche dans des rivières, mais en régiant des digues. Et ces digues-là sont montées avec des morceaux de troncs d'arbres, de la terre, ainsi de suite. Et après chasse, elles vont détruire les digues. Et en disant des digues, vous allez voir que l'eau est vraiment polluée. L'eau est polluée. Et à ce moment-là, est-ce que c'est la population peut encore boire de cette eau-là le même jour, après combien de temps? Et voilà la présentation et l'aspect que
nous donner de l'explication. Merci, Jonas de Kananga. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également à l'invité avec vous sur le plateau.
Quelle est votre question, Jérémy?
Depuis ma bord, je voudrais juste, moi, fustiger juste ce que nous constatons, hein, parce que nous sommes en train de vivre au quotidien. Et je donne un exemple. Vous êtes à Lubumbashi, si vous traversez la route qu'on appelle boulevard Katouba, il y a une rivière qu'on appelle rivière de Lubumbashi. Je vous assure que si vous arrivez pour voir ce qui se passe et combien d'histoires polluent l'eau à ce niveau-là, vous n'avez pas idée. Je pense que nous sommes en train de déplorer combien des épidémies nous comptons ici au Congo et combien de maladies guettent la population, mais nous ne savons pas nous rendre compte qui sont auteurs. Je pense que à ce niveau, même les législateurs doivent être intéressés ou concernés, également les ministères ayant la charge l'environnement. Et je pense que ce qu'il faut faire, il faut utiliser la politique de proximité. Qu'est-ce que je vais dire par là? Donc ça veut dire commencer par sensibiliser les autorités qui ont les entités plus rapprochées de la population. Question de chercher à mettre sur pied des voies et moyens pour pouvoir résoudre tant soit peu les difficultés qui viennent de la population. Vraiment, la pollution de l'eau, nous en avons marre.
D'accord.
Parce que beaucoup de maladies que nous avons autour de nous, c'est dû à ça. Je pense que le gouvernement doit mettre sur le pied, et donc, c'est-à-dire des mesures adéquates, question de pouvoir trouver une issue. Par exemple, donner des injonctions à ceux qui sont censés. Pourquoi pas créer un groupe de gens pouvant assainir tout autour des rivières, etc., question de pouvoir un peu mettre la population dans des conditions favorables. Je voudrais poser la question juste à l'invité. Qu'est-ce qu'ils ont déjà initié? Qu'est-ce qu'on a initié donc en rapport avec les mesures adéquates utilisées pour pouvoir éradiquer tous ces problèmes qui gangrènent un peu les problèmes donc...
Merci Jérémy, à la pollution des rivières. Merci Jérémy de Lumbashi. On va accueillir Kachai de Kanyoka. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question, Katia?
Merci beaucoup Monsieur Jody. La population kanangaise s'approvisionne en eau de la régie des eaux, laquelle eau est tirée de la rivière Chibashi qui se trouve au village Kanyoka. Quoique les villageois de Kanyoka ne sont pas servis par cette eau-là, mais nous remarquons que certains déchets, certaines ordures, des produits des magasins, boîtes de conserve, lait de beauté, que sais-je encore, qui ont déjà expiré, sont surtout incinérés à côté de la rivière Chibashi, qui sert toute la population des Kanang. Et cette cendre-là, lorsque il pleut, ça se dirige jusqu'à la rivière, parce que c'est à proximité de la rivière. La rivière qui a l'usine de captage, parce qu'il y a deux usines, usine de captage et de traitement. L'usine de traitement se trouve au centre-ville, mais l'usine de captage est au village.
Alors, Kachai, qui incinère ces produits périmés à côté de la rivière Chibashi?
Par exemple, les propriétaires des magasins, boutiques, qui ont déjà constaté que les produits sont périmés, alors ils amènent ça dans un camion, le camion jusqu'à la rivière, ils incinèrent. Un jour, moi-même, je suivais le camion connaissant que les produits sont en bon état pour que je puisse prendre un lot important, mais ils étaient en train d'incinérer ça. Alors, c'est ainsi que je voulais demander à l'invité, parce que c'est vrai que la population de Kanyoka, quoique la régie des eaux est construite dans ces villages-là, n'est pas servie en eau potable de la régie des eaux, c'est seulement les centres-villes. Alors, je voulais au moins demander à l'invité, n'est-ce pas cela constitue un danger très imminent, immédiat,
d'accord,
à l'endroit de la population citadine? Deuxièmement, monsieur Jeudi, s'il vous plaît.
Rapidement.
Parce qu'il a dit que nous devons protéger normalement nos rivières, nos fleuves, ainsi de suite.
Oui.
Est-il possible que les populations creusent des puits dans leurs parcelles pour peut-être
enfouir les déchets ménagers?
Merci, vous m'avez complété en langage.
Merci, bonne journée. Alors, professeur Céline, vous avez la parole. Vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour réduire ou lutter efficacement contre cette pollution des rivières?
Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de Radio Capi, à M. Jonas, à M.
Jérémy,
à M. Kachai, à tous pour cet intérêt. Et surtout pour leurs préoccupations qui vont nous permettre de bien faire comprendre à nos auditeurs l'intérêt de ce que nous appelons le monitoring de cours d'eau. Le premier a parlé de l'eau qui coule n'a pas de microbes.
Mais c'est vrai.
Ce qui est dit.
Oui.
C'est une manière de dire que l'eau, lorsqu'elle coule en fait, elle a tendance à ne rien charrier, ce qu'elle peut amener. Mais vous verrez que nos eaux dans nos rivières ici, quand elles coulent, elles emportent tout et même tout ce qu'il y a comme microbes. Donc, je ne vous dirai pas que cette eau qui coule n'a pas de microbes. Pas du tout. Les digues qui sont placées, certes, c'est une manière de récupérer de l'eau, de canaliser en termes de réservoir pour une utilisation ultérieure, mais c'est plutôt les écorces qui sont utilisés et qui sont mis dans l'eau qui peuvent créer des problèmes. À ce moment-là, il faut très bien connaître la composition en écorce. À partir d'un screening chimique, on peut connaître ce qu'il y a dans ces écorces pour savoir les écorces qui sont jetées. Certes, les écorces, d'une manière naturelle, lorsque les plantes vont dans le milieu, eh bien, c'est de la matière organique, le processus se déroule normalement si la rivière est capable de s'auto-épurer. Ça dépend de sa capacité d'auto-épuration. Là, ça peut se faire.
Voilà, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'au village, dans certains villages, les dames utilisent la poudre toxique.
Oui, c'est de ça dont je parlais. Ils ont parlé des écorces.
Voilà, les écorces, pour attraper le poisson.
Pour attraper le poisson. Et c'est ce que je dis, il faut connaître la composition de ces poissons-là. Alors, les poissons, si ces écorces sont toxiques, qui tuent les poissons, qui fait qu'elles attrapent les poissons à partir de ces écorces, il faudrait comprendre que contient ces écorces. Quelle est la composition pour impacter sur les poissons? Et puisque nous ingérons ces poissons, est-ce qu'il n'y aura pas aussi un impact sur notre santé?
Il a parlé également des gens qui habitent aux environs. Est-ce que les villages à côté, est-ce qu'ils peuvent boire cette eau-là?
Après combien de temps? C'est une eau des rivières. Je déconseille formellement de la consommer comme telle, comme eau de boisson. Elle ne peut pas être consommée comme telle, comme eau de boisson. Elle peut servir à d'autres usages, comme le jardinage, on peut arroser les plantations ou d'autres travaux ménagers, mais éviter de consommer les eaux des rivières brutes. Parce que nous ne connaissons pas exactement la qualité, la composition en termes d'eau. Une eau de consommation doit être potable pour l'être humain et même pour certains animaux. Elle doit répondre à certains critères dits de potabilité. Et donc, une eau de rivière, dans ces conditions-là, ne peut pas être consommée. C'est vrai qu'il y a cet aspect, l'accès à l'eau qui est difficile. Il faut peut-être à ce moment-là essayer de recourir aux eaux de source. À cela, il faut aussi ajouter qu'il faut connaître également la composition de ces eaux. Oui. Si ces eaux ne sont pas contaminées par les microbes pathogènes, puisque si nous les consommons dans ces conditions-là, ça risque de nuire à notre santé plus qu'on pourrait l'imaginer.
Jérémy de Lubumbashi nous dit que la rivière Lubumbashi, à côté du boulevard Katouba, est également polluée. D'après lui, pour lutter contre cette pollution, il faut sensibiliser les autorités. Et puis, il veut savoir qu'est-ce que, à votre niveau, vous avez déjà fait pour lutter contre la pollution des rivières et des cours d'eau.
Merci beaucoup à M. Jérémy. La pollution de Lubumbashi particulièrement, c'est d'origine industrielle. Les mines et industries qui se trouvent là-bas, on peut avoir comme conséquence le rejet des eaux parce que les eaux ne sont pas traitées. Je n'ai pas connaissance qu'il y a des industries ou des mines qui possèdent des structures de traitement des eaux usées. Alors les eaux industrielles usées qui sont déversées dans la nature créent aussi d'autres types de pollution et particulièrement ce que nous pouvons dire là-dessus c'est que on peut avoir beaucoup plus la pollution d'origine des métaux chimiques avec des métaux lourds, ce qui est très dangereux, et puis des métaux toxiques, une pollution très toxique qui peut aussi nuire à notre santé. Et alors, il parle de la sensibilisation, je suis tout à fait d'accord avec lui. La sensibilisation, c'est un aspect qui permet aussi de prévenir. Ça permet de prévenir, mais dans notre programme, en principe, le programme au niveau du gouvernement, il faudrait qu'il y ait, qu'on insère dans ce programme cet aspect, non seulement la sensibilisation. Mais à cela, on devait appliquer, au-delà de la sensibilisation, le principe du pollueur-payeur. Le principe du pollueur-payeur permet de faire payer à celui qui pollue pour essayer de réparer ses erreurs. Donc, ce principe, je crains que dans notre pays, ce principe ne soit pas encore de mise. Donc, il y a cet aspect-là. Nous, qu'est-ce que nous avons fait en termes de monitoring? Bien sûr, nous avons commencé avec les monitorings de cours d'eau. Je me rappelle, nous avons été vers Sake, vers Goma là-bas. Nous avons commencé avec la rivière Sake, disons, il y a une rivière qui passe par là et qui va vers, oui, la rivière Sake, où il y a le problème de la fluorose. Nous avons entamé des recherches, malheureusement, la personne à qui nous avions confié ce travail n'a pas évolué, nous n'avons pas eu le feedback. Nous avons été à Mbujimayi, nous avons constaté que la rivière Mouya avait un problème dans la rivière. On avait constaté qu'il y avait la bilharziose, donc des germes qui causent la bilharziose, et ces germes directement étaient en contact avec la population parce qu'on a trouvé des enfants qui jouaient dans l'eau et tout. Or la bilharziose, c'est le contact direct avec l'eau, hein, pour en avoir. Et nous avons initié aussi quelques recherches là-dessus. Je crois que l'INRB, l'Institut National de Recherche Biologique, ici chez nous, fait ses recherches dans le cadre de cela, et nous collaborons avec l'INRB. Qu'est-ce que nous avons également fait? Nous participons avec l'équipe CONZO pour évidemment travailler aussi sur la compréhension de l'impact de la qualité de l'eau sur le phénomène CONZO qui sévit dans la partie de Kaimba, par exemple. Et à Kinshasa particulièrement, nous sommes dans le monitoring de cours d'eau pour comprendre, avec tout ce que nous avons comme déchets, que peut contenir nos rivières, avec les phénomènes Munduki que vous avez expliqué tout à l'heure, qui consiste à envoyer tous les déchets, les matières fécales,
Vers les rivières.
Ce phénomène Munduki, ça est un phénomène qui va créer des sérieux problèmes parce que là,
Munduki faisant allusion aux tuyaux,
ils appellent ça comme ça.
Les parcelles qui n'ont pas de fosse septique, tout va se déverser dans la rivière.
Tout à fait. Quand vous entendez Munduki, un Munduki, en principe, ça tue. Même si le fusil, le vrai, il vous tue directement, ou peut-être plus tard, on peut aussi vous sauver. Mais le phénomène Munduki que nous avons constaté dans la ville de Kinshasa, c'est un phénomène qui va tuer à petit feu. C'est une bombe à retardement et il faut qu'on y prête attention. C'est ainsi que nous avons proposé particulièrement qu'il y ait un observatoire dans toute la RDC, un observatoire des cours d'eau pour que notre population soit mise à l'abri. Cet observatoire pourra permettre, quelle que soit la ville, à quel endroit qu'il soit, là où il y a les rivières, que l'on contrôle la qualité et tout ce qui va dans cette eau-là, pour savoir permettre aussi de punir ceux qui le font. Kachaï a parlé de l'incinération.
L'incinération des déchets dans les parcelles pour que ça ne finisse pas dans les rivières.
Lorsqu'on incinère les déchets, il y a une partie de produits de l'incinération qui sont sous forme gazeuse, volatile, la fumée, etc. et tous les gaz qui s'envolent. Mais les gaz, ils vont à l'air, mais ils vont revenir sous forme de pluie, par exemple, lorsqu'ils sont dilués par l'eau de pluie. Et vers le lieu d'incinération, il reste une matière solide, n'est-ce pas? Et cette matière-là, on ne la dégage pas. Cette matière est charriée, même si c'est sous forme de cendre, elle est charriée encore une fois vers les rivières. Donc, on n'aura pas résolu le problème.
Donc, il faut mettre en place un observatoire des cours d'eau.
Quand il parle d'incinérer, est-ce qu'on incinère à ciel ouvert? Ensuite, lorsqu'on incinère, c'est des produits, des médicaments, a-t-il dit? Des médicaments, et je crois que en principe le ministère de l'Environnement, les services d'hygiène et tout devaient veiller à cela. On ne peut pas incinérer les produits n'importe comment.
Oui.
Il existe des incinérateurs. Les produits sont incinérés dans les conditions telles qu'elles doivent être.
Un instant, professeur, on va accueillir deux autres auditeurs. Jules Kazadi de Lumbashi et Gentil Oumanou de Kananga. Jules, bonjour. Jules, vous êtes à Lumbashi, bonjour. Nous parlons de la pollution, de la lutte contre la pollution des rivières dans les centres urbains. Quelle est votre préoccupation?
Je salue aussi notre professeur qui est sur le plateau. Donc, le problème, moi, on n'arrive pas à comprendre cela parce que depuis le départ des Belges jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement se succède. Donc, on n'a pas encore eu des sociétés qui peuvent commencer à gérer les dossiers. Aujourd'hui, mais c'est jeudi. Donc, on ne comprend pas. Ici, à Lubumbashi, il y a des sociétés, je ne peux pas citer leur nom, qui déversent leur faire des déchets toxiques dans des rivières. Et vous allez voir, il n'y a pas longtemps, il y avait même des émissions qu'on a vu même les poissons mourir dans des rivières.
Mmh.
Ici, notre compatriote l'a dit, au niveau des rivières Katiba. Donc, quand vous passez là-bas, vous allez. Donc, il y a une odeur nauséabonde et il y a des déchets, des bouteilles, des sachets. On ne comprend pas de quel service qui peut. Qui est concerné par rapport à cette situation.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est le système, le gouvernement n'arrive pas à financer ce secteur-là ou quoi.
D'accord. Merci.
Merci,
Jules. Merci, Jules Kazadi de Lumbashi. Gentil Oumanou, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à notre invité du jour.
Quelle est votre préoccupation, Gentil?
Merci de m'avoir accordé la parole, monsieur le journaliste. Je remercie tout d'abord notre invité. Tout ce qu'il a expliqué, c'est clair et net. Alors, par là, je ne peux pas manquer même de poser une petite question de savoir. Quelles sont les étapes de l'incinération des produits provenant de la pollution de l'eau? Les étapes à suivre pour incinérer ces produits-là. Parce que chez nous, par exemple, au laboratoire, moi je suis biologiste médical, je suis technicien de laboratoire. Il faut que si les étapes pour incinérer les restes de produits après avoir fait les examens. Alors je voulais demander aussi à notre invité de nous donner aussi les étapes pour l'incinération des produits provenant de la pollution de l'eau.
D'accord. Merci, Gentil Oumanou. Comment lutter contre la pollution des rivières dans les centres urbains? Vous êtes à Kinshasa, vous habitez à côté de la rivière Kemi, la rivière voilà, Matete, Kalamu, Makelele, à Kingabwa. Appelez-nous, dites-nous, Mososo, dans quel état se trouvent ces rivières, là où vous habitez. Appelez au 081-890-63-94 pour témoigner dans cette émission au Capi Service. Patricia nous a écrit de Kinshasa. Elle dit que l'état devrait mettre un peu plus d'argent pour l'assainissement. Il faudrait avoir un budget quand même important par rapport à l'assainissement. Et elle dit également qu'il existe une ONG suisse qui transforme les déchets en biogaz. Et les gens peuvent amener des paquets de déchets et puis les personnes seront rémunérées. Et ça, d'après elle, c'est une façon d'éviter que ces déchets finissent leur course dans nos rivières. Professeur Céline.
Merci beaucoup à Jules, à Gentil et à Patricia qui a dit que le budget de l'assainissement, effectivement, elle a tout à fait raison. Mais je vais d'abord terminer avec la question de Kachai. Comment, si on peut creuser de puits, le puits en fait ne se creuse pas de n'importe quelle façon. On étudie d'abord la composition du sol, on étudie à quelle profondeur se trouve ce puits, et puis on doit comprendre également quel est le mode de fonctionnement de ce puits. Est-ce que c'est un puits qui est non loin de la surface? Si elle est non loin de la surface, donc elle est non, elle n'est pas bonne pour la consommation humaine, parce que plus elle est à la surface, plus elle est proche de la surface, elle est proche, elle est beaucoup plus exposée aux contaminations d'origine humaine. Et donc, si aussi ces puits se trouvent dans les conditions telles que les longs ou dans les environnements, l'environnement, on retrouve des fosses septiques, il peut y avoir des contaminations des matières fécales. Et autre élément, les puits, vous savez que nous ne gérons pas du tout les garages. Les garages, les nettoyages de véhicules, des moteurs,
les huiles
de vidange,
oui.
Tout ça, ce sont des huiles qui se terminent, qui ont aussi tout droit leur direction vers le rivière également. Il n'y a aucun service de l'environnement qui attaque cet aspect de choses. Et vous retrouvez aussi les éléments sous forme de traces, parce que de manière visible par rapport aux déchets plastiques et autres, on ne peut pas les voir. Mais ces éléments se retrouvent, les hydrocarbures vont se retrouver dans les rivières et plus particulièrement dans les puits, car les puits sont plus proches de nous. Alors, Monsieur Jules, il a parlé des déchets toxiques des rivières et des odeurs. C'est tout à fait normal lorsque il y a plein de déchets dans les rivières, il y a ce qu'on appelle les sous-produits. Les sous-produits, nous avons les gaz qui sont volatiles et on les sent particulièrement avec les odeurs nauséabondes comme le sulfure d'hydrogène. sulfure d'hydrogène, donc H2S, c'est un sous-produit. C'est ça qui crée ces odeurs nauséabondes. Il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi d'autres gaz.
Il y a aussi d'autres composants.
Il y a aussi d'autres composants.
Oui, professeur, à part la mise en place d'un observatoire, quelles sont les autres stratégies efficaces pour lutter contre la pollution des rivières?
Pour lutter contre... Je vais continuer avec les autres questions après. Oui. Les autres stratégies, c'est d'abord, je sais qu'il existe actuellement, on travaille sur... la RDC a mis en place ce qu'on appelle un schéma directeur de la gestion intégrée des eaux urbaines, mais ça ne suffit pas. Je crois qu'au-delà de ça, il faut un programme environnemental suffisamment élaboré. Un programme élaboré qui tient compte de tous les différents aspects, qui tient compte de tous les compartiments, qui tient compte de l'aspect qu'on appelle l'approche systémique. Donc il faut une approche holistique pour la gestion de cet environnement. Nous avons l'environnement qui n'est pas encore détruit, mais il y a aussi l'environnement qui est déjà détruit. Donc on ne peut pas procéder de la même façon. Il faut un programme. Et dans ce programme, il y a des priorités. Il faut à ce moment-là travailler, s'asseoir et comprendre dans chaque compartiment, puisque l'environnement touche à différents secteurs. L'eau en particulier, qui est un secteur transversal, il touche à différents secteurs. L'environnement, c'est la santé. L'environnement, c'est aussi l'alimentation. L'environnement, ce sont les nuisances olfactives. Ce sont les nuisances sonores. Il y a tout un programme que l'on peut mettre en place pour que, à l'avenir, qu'il n'y ait pas tout ça. Parce que quand on incinère n'importe comment, lui, il a parlé de l'incinération des médicaments. Mais à Kinshasa, les incinérations se font ça et là, sans contrôle, particulièrement avec les pneus. Vous savez, chaque fois qu'il y a un décès à Kinshasa, vous pouvez vous attendre à 2, 3, 4, 5 pneus brûlés. Mais est-ce qu'on connaît ce que l'on envoie dans l'air? Et toutes les personnes qui sont autour de ces pneus, c'est que ces personnes inhalent chaque jour. Et qui contrôle ces incinérations? Personne. On n'interdit rien et on laisse les gens faire ce qu'ils font. C'est un sérieux problème parce qu'à l'avenir, nous aurons ce que nous appelons les maladies émergentes que nous ne connaissons pas. Voient émerger.
Professeur, les cours d'eau sont tellement pollués et c'est cette même eau que nous consommons au quotidien.
Oui, parce qu'il y a des populations qui n'ont que ça. Il n'y a que des populations qui n'ont que ça. Je pense qu'on en
a parlé. Il y a des coins où la régie des eaux, les gens ne sont pas desservis par la régie des eaux, alors ils recourent à ces eaux.
Faute de mieux. Et donc, on devait davantage protéger ces eaux parce que notre population recourt à ces eaux-là. Nous avons même à Kinshasa, à Matete par exemple, sur la rivière Matete, nous avons rencontré une dame qui fait les nettoyages des habits de ses enfants et ses propres habits, ses effets, dans la rivière. Elle a sa vie là-bas. Comment voulez-vous qu'elle puisse parler de la régie des eaux? Peut-être qu'elle ne connaît pas. Donc, je crois que la protection de nos rivières pourra beaucoup bénéficier à notre population d'une manière ou d'une autre. Il faut un programme plus élaboré, un programme environnemental costaud qui prend en compte les différents compartiments du secteur de l'environnement. Que ce soit la biodiversité, la protection de la biodiversité, la protection des écosystèmes, les poissons en particulier, parce que les poissons sont ceux qui vivent dans le milieu aquatique que nous consommons en particulier. À part les poissons, nous avons aussi des autres organismes comme les crevettes, les crustacés, tout ce que nous consommons qui viennent de nos cours d'eau doivent aussi être exempts de pollution ou de polluants. Parce que si nous les consommons et qu'ils sont contaminés, nous aussi nous créons des problèmes à notre santé. C'est un problème sérieux qui demande à ce qu'on puisse suffisamment s'y pencher avec beaucoup de soins, surtout en regardant les détails. D'une manière générale, on fait une sorte d'examen global. De l'environnement en général, on regarde l'environnement. Mais l'environnement, c'est un secteur vaste. L'environnement, c'est un secteur qui prend beaucoup d'autres ou qui touche à plusieurs autres secteurs. Je crois que l'approche systémique, holistique, devait nous aider à mieux comprendre la gestion de cet environnement. Donc, il faut un programme costaud.
Il faut un programme costaud, oui. On va terminer avec les questions d'Ngoy, de Kindou, Mutombo, de Kalemi et Chito, de Kolozi. Rapidement, soyez bref dans vos interventions. Ngoy, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Ile de France Ngoy depuis Kindou.
Voilà, rapidement, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre la pollution des rivières?
Oui, moi, je voudrais peut-être renchérir les idées de mes prédécesseurs parce que même les autres ont dit non, il faut un budget, un programme, un moratoire, ainsi de suite. Moi, je voudrais qu'il y ait des mesures contraignantes
au niveau des parlements qu'on introduise des lois au niveau des législateurs pour qu'il y ait des mesures contraignantes. Parce que moi, je vais vous donner un exemple ici à Kindu. Nous avons une rivière Mikelenge. Et lorsque la MONUSCO était sous forme démonique, la MONUSCO tirait les matières fécales pour aller les verser en amont de la rivière Mikelenge. Et à côté ici, il y a la tribune de la Régie des eaux. Et nous vivons les eaux qui proviennent de cette rivière. Vous voyez? Alors, il n'existe pas de mesures contraignantes pour un peu sanctionner ce genre d'entreprise ou de personnes qui s'abusent comme ça en polluant les eaux.
D'accord.
C'est ce que je voudrais proposer.
Merci, Ngoy. Mutombo de Kalemi, bonjour.
Mutombo. Oui, bonjour, monsieur.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la pollution des rivières, des cours d'eau? Rapidement.
J'aimerais demander à l'exécutif en étant avec le problème des sachets où le ministre de l'Industrie avait demandé à la population de ne pas. Où en étant avec ce programme? Est-ce que c'est la faute de la population ou du gouvernement? Puisque je suis chaque fois à la radio Capi, M. Félicien, qui dit la médiocrité de cette classe politique et de la population. Est-ce que c'est la faute de la population ou de l'État? Puis quand vous arrivez à l'usine de captage de Camp-Colombo à Kalemi, vous trouverez en ce sens que ce sont des sacs, ce sont des habits, ce sont des quoi, des filets, des quoi qui se tâche là-bas, il y a carence de l'eau maintenant.
D'accord. Merci.
Un maître du gouvernement.
Oui.
Qui est à la faute? Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est l'État?
Merci, Mutombo. Merci, Chito. Vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, Captain Service. Et bonjour à tous les auditeurs.
Chito, quelle est votre question?
L'auditeur du jour, mais aussi l'animateur du sujet.
Bien, Tito, rapidement, quelle est votre question?
Je n'attends pas ma question, moi j'ai 5 propositions que je pourrais mettre à vue de l'inviter et savoir comment pouvoir aider la communauté mais aussi le gouvernement pour faire un soutien sur ces propositions-là. Et surtout dans le sens où elle a dit qu'elle est en train de travailler sur et savoir quelles sont les mesures pratiques qu'elle pourra prendre. Première proposition, c'est créer des régimes de recyclage active. Deuxième proposition, c'est créer une brigade de police et de surveillance en matière de déchets. Troisième proposition, c'est sanctionner les récidivistes mal gérant les déchets. Quatrième proposition, c'est arrêter sans délai les usines de production des emballages de sachets de plastique. Enfin, c'est le service d'assainissement dynamique. Il faut avoir le service d'assainissement dynamique et constant dans les villes. Et voilà les 5 propositions que je pourrais mettre dans ce cadre-là.
Merci. Merci Chito de Kolwezi. Professeur Céline, vous avez la parole.
Merci beaucoup à Ngoy, à Mutombo, à Chito de Kolwezi. Merci pour votre intérêt. Les mesures contraignantes, je crois que les lois existent. Hein. C'est peut-être l'application de ces lois qui pose problème. Et les mesures contraignantes, certes, mais au départ, on doit comprendre que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités au niveau des gouvernés, les responsabilités des gouvernants. Donc, les décideurs. Mais là aussi, je dois aussi renvoyer la balle à ceux qui sont dans le domaine des gouvernés, particulièrement les chercheurs. Les chercheurs ne jouent pas leur rôle comme il se doit. Ils connaissent, ils ont l'information, mais ne passent pas comme il le faut à la population. Peut-être parce que les recherches ne sont pas financées comme il se doit, parce que c'est dans ce domaine que l'on peut arriver à valoriser, par exemple, le secteur de déchets. Il vient de parler de recyclage de déchets, mais pour le recycler des déchets, il faut non seulement recycler, il faut commencer par trier. Passer par un tri, c'est tout un programme, comme je l'ai dit.
Oui.
Un programme costaud, où on trie les déchets selon leur catégorie pour savoir quelle est la finalité. Mais la finalité, c'est l'industrie. On peut passer par l'industrie, on peut partir du déchet vers l'industrie, on peut aussi arriver, même l'industrie, lorsqu'il récupère ce déchet, c'est pour produire quoi? C'est tout un plan, c'est tout un projet. on peut produire quoi? Et donc, Mutombo, problème de sachet, à qui la faute? Je vous ai répondu.
Oui.
À Chito, donc, éducation.
Moi, une brigade et un service d'assainissement efficace.
Je pense que tout doit être fait de manière à ce qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine synergie dans les actions pour comprendre que on ne travaille pas seul et en vase clos dans le domaine de l'environnement. Même cette police, elle doit être formée, elle doit comprendre qu'est-ce qu'elle fait comme travail, ce que nous avons, nous voyons les gens qui passent tous les samedis pour, je crois, imposer un soi-disant Salongo.
Salongo, mais Salongo acheté, il y a des gens qui, qui donnent de l'argent et ils ne font pas de Salongo.
Ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin d'y travailler. Ça veut dire, comme je le dis, il y a des priorités.
Professeur Céline, on a pris beaucoup de temps. On aura l'occasion d'y revenir là-dessus prochainement. Je rappelle que vous êtes professeur Céline Sikoulissimois. Vous êtes spécialiste en gestion intégrée des ressources en eau, technologie de l'eau. Voilà, particulièrement dans le domaine de la technologie de l'eau. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Ça va vite. Merci beaucoup à vous aussi et au revoir à tous les auditeurs.